Radio Primitive. L'alternative.
Attends, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir. Émission surprise, on ne sait pas si ça va marcher. Mais donc ce soir, on voulait vous parler, j'allais dire un peu comme tout le monde, du conflit qui a lieu depuis 2 mois à Tourcoing entre les salariés de la boîte Verbaudet et leur taulier. On va essayer peut-être de vous passer du son d'ici quelques minutes. On va voir si ça marche. C'est bien, il y a toujours du suspense dans les Grégor. On ne sait pas si ça marche. Mais voilà. Et on voulait essayer un petit peu de réfléchir et de vous décrire ce qu'il se passe. Vous le savez certainement, puisque c'est quelque chose qui a fait l'actualité ces 15 derniers jours, suite à l'intervention d'une part des forces de l'ordre, puis à l'enlèvement et à la tentative d'intimidation d'un des syndicalistes par des hommes qui se sont présentés comme étant des policiers à son domicile. Et puis, d'autre part, par la volonté de la CGT de nationaliser le conflit et puis pour une partie de la gauche de comment dire s'en saisir.
Ouais, c'est ça, monte en épingle.
Ouais, c'est ça, ben de la publicité et de la nationaliser. Donc c'est arrivé sur les écrans et sur les médias, alors que c'est une grève qui dure depuis maintenant 75 jours, 74 exactement.
Ouais, le mois de mars.
Ouais, ouais, une grève qui porte principalement sur les salaires.
Sur les salaires, oui.
Avec la demande d'une augmentation de 150 euros par mois du salaire, hein, on parle bien de salaire. Et puis c'est quand même une grève qui s'inscrit aussi dans qui est très, on va dire, emblématique à la fois de l'histoire industrielle de la région, d'une part,
ouais, de l'île Tourcoing, ouais.
et puis de ce qui se passe aujourd'hui dans le salariat d'autre part, quoi. Alors la première chose, c'est que comme d'habitude et parce qu'il faut faire de la communication, on a utilisé les termes les verbaudets, etc., etc. Bon, alors moi, je suis pas du tout favorable à ce type de dénomination, ouais. Parce que j'estime que les gens sont des travailleurs, en l'occurrence ici, ce sont des travailleuses, et qu'elles n'ont pas à être rattachées en plus à un baudet qui soit vert ou
mais
pas.
Il est vert.
Voilà, il est vert. Enfin bon, voilà, ce sont des travailleuses qui sont en lutte. Ça paraît sortir du 19e siècle quand on dit ça, mais non. Y a des gens qui se mettent en lutte et leur moyen de lutte, c'est la grève et c'est le blocage,
grève, etc. Voilà. Oui.
Alors bon, il faut revenir quand même sur Verbaudet parce que c'est quand même une histoire particulière. Donc Verbaudet, c'est une marque, hein, qui fait de la vente par correspondance, notamment du textile et du textile destiné aux enfants et aux jeunes mamans. Et Verbaudet, auparavant, ça appartenait à la famille de Vinvrin. Donc pour ceux qui ont leur petit compte de la bourgeoisie, les de Vinvrin, c'est une immense famille de filature et de textile, puisque depuis 14 générations, 15 avec la dernière, ce sont des gens qui ont travaillé dans le textile. Alors, on est venu à plusieurs...
Travailler est exagéré. Ils ont fait travailler les autres.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Pour ceux que ça intéresserait, on peut leur proposer de réécouter l'émission qu'on avait fait sur Roubaix et sur la Redoute. Ça doit se trouver sur le net et dans les archives de l'Égrégore, si vous fouillez bien, où justement on essayait de faire une histoire, hein, de ce coin-là avec ses représentations politiques et sociales. Donc on a dit 15 générations de propriétaires textiles et de patrons. Ça veut dire que on a eu à la fois les propriétaires de moutons, les tisserands, mais aussi le pouvoir politique, puisque un des membres de la famille de Vavrin sera maire de Roubaix. Il va se marier avec un propriétaire de charbon beige. Il va y avoir la machine à vapeur, et donc effectivement, on aura de l'autre côté on aura de l'autre côté les mines. Donc on va dire un ensemble de domination. Alors, en 1960, De Vavrin va créer la vente à distance et Verbaudet. C'est une partie de la transformation des industries textiles, la vente par correspondance. Hein, donc y a tout un tas de trucs, hein, là-haut, évidemment, pour les plus anciens, vous vous rappelez de la Redoute.
La Redoute, ouais.
Les Trois Suisses, ouais, Sport, ouais. Kell, qui avait un petit côté allemand, Verbaudet, etc., etc., etc. Action, avec un X. Pas comme les magasins de merde qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, vraiment un fort truc sur la vente par correspondance. Avec évidemment une gestion de la logistique très très importante. Et au début des années 2000, les derniers héritiers de l'empire de Vavrin vont se séparer de l'entreprise et vont vendre leur dernière part à un premier fonds de pension, un premier holding. Alors, on va plutôt utiliser le terme de fonds de pension. Alors fonds de pension, tout de suite, ça vous fait penser à retraite, mais là c'est pas le cas. Hein. Ce sont vraiment des structures financières qui ont pour objectif de racheter des entreprises en difficulté ou pas, et de les faire fructifier pour, on va dire, dégager un profit maximal par action et éventuellement revendre après. Alors donc, la première, évidemment, j'ai révisé toute l'après-midi, mais j'ai oublié le nom, donc va racheter cette boîte aux alentours de 189 millions d'euros, hein, une paille, et va la revendre 4 ans après pour la modique somme de 220 millions d'euros. Hein, donc on voit, c'est une entreprise qui, si elle ne... On peut pas dire qu'elle tourne, en tous les cas, elle est extrêmement valorisée, puisque en à peine quelques années, on est capable de dégager...
En 3 ans, ouais.
Voilà, en 3 ans, on est capable de dégager une plus-value...
40 millions.
Plus-value à la revente de 40 millions. Évidemment, la valorisation, ben, elle se fait que sur... pas forcément la compression des coûts, hein, elle se fait évidemment sur la chose la plus importante qui est la, on va dire, la force de travail, quoi.
Oui, bien là-dessus. Sûr.
Et donc 220 millions d'euros et cette revente va être effectuée à un deuxième fonds, on appelle ça private equity, hein. Qui s'appelle Equity quelque chose, j'ai oublié le nom encore, c'est pas grave, mais c'est pas ça qui m'intéresse, le nom. Ce qui m'intéresse, c'est la gestion de ce fonds qui est géré par Édouard Fillon,
qui est le fils d'eux.
Hein, vous voyez, quand on parle de la bourgeoisie, on est exactement dans ce genre de choses, c'est-à-dire des gens qui d'un côté façonnent la vie des autres, vivent du travail des autres, et de l'autre, sont capables de prendre des décisions politiques. Je crois que c'est quelque chose d'ailleurs qui a été assez peu mentionné par les concurrents. Bon, alors évidemment, Verbaudet a été aussi cédé au concurrent La Redoute, hein, propriété de la famille Pinault, hein, de François Pinault, un des Français les plus riches. Voilà. Donc c'est Private Equity, hein, le premier fonds d'investissement, et le deuxième fonds de fonds, c'est Equistone, voilà, dont avec une participation de la BNP Paribas, hein. Vous savez, ceux qui sont condamnés pour des blanchiments d'argent et qui ont également négocient donc des amendes, hein, comme ça a été le cas il y a quelques mois, hein, maintenant, puisque les 5 premières grandes banques françaises ont négocié une transaction judiciaire pour éviter d'avoir à subir une enquête sur la plantation de leurs filiales à l'intérieur de paradis fiscaux. Donc, vous savez où passe l'argent. Voilà. Je continue en disant que le type de transaction qui a été réalisé a été celle d'un LBO. Donc, c'est ce qu'on appelle un prêt spéculatif à effet de levier, qui, en fait, permet d'avoir l'argent tout de suite et d'être remboursé selon la profitabilité qui va être réalisée par action, par l'entreprise. En gros, pour être clair, on fixe des objectifs à l'emprunteur afin de lui faire cracher du cash, et ainsi d'avoir une boîte qui est pas rachetée à sa valeur réelle, mais qui est rachetée à une valeur supérieure, à charge pour le gestionnaire de faire cracher le cash par cette boîte. C'est très intéressant pour un fonds de pension parce que comme il produit pas, lui, de valeur réelle, ça lui permet de récupérer tout de suite de l'argent pour pouvoir procéder à de nouvelles acquisitions et donc toujours être dans cette démarche de valorisation. Donc je crois que vous avez entendu parler des salariés de Verbaudet, hein. Ce sont majoritairement des femmes, pour 75% d'entre elles, qui sont payées au SMIC.
Mais pas forcément pour 35 heures. Hein. Il y en a certaines qui font 10 heures, 15 heures, etc.
Alors en plus, on n'a pas de déroulement de carrière. C'est-à-dire que on peut commencer au SMIC et pour finir au SMIC, on peut être 30 ans sans on va dire augmentation outre que celle qui est légale. On a évidemment tout un tas on a des postes de travail qui sont des postes qui sont en 2-8. Donc on est sur aussi de la vente par correspondance et de la logistique, donc on va prélever dans un stock, on va aussi gérer, puis il y a une partie commerciale où on va faire du démarchage. C'est évidemment cette partie-là, on va dire la moins dure, celle qui contient les cadres. Et puis donc on a aussi un gros management et un gros contrôle, hein, puisque on a eu des témoignages où on ne peut pas ramener à boire. Il y a une seule machine à café, tout est réglementé, etc.
Il y a combien de salariés là-dedans? Je crois qu'il y a plusieurs centaines.
C'est 260. Et sur ces 260, il y a entre 70 et 85 grévistes.
Grévistes, ouais.
Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire sur le déroulé de la...
Peut-être qu'il a trouvé.
Ça fonctionne. Alors, on va tout de suite leur passer la parole, puisque ça a marché, on va croiser les doigts pour que ça marche encore, et puis on reviendra pour commenter un petit peu le reste. Allons-y. Donc, je pense que le premier dure 2 minutes.
On va durcir le mouvement!
Moi, je suis Isabelle Mella, je suis déléguée du personnel à Verbaudet, et je travaille à Verbaudet depuis maintenant, ça va faire 20 ans. Donc, le contexte de la grève a démarré, c'est le 20 mars. Donc, le 20 mars, en fait, ça a été bloqué par la CGT extérieure. Hein, donc pas par nous les délégués, par la CGT extérieure, pour au niveau des retraites. Donc nous sommes arrivés, c'était bloqué. On a parlé avec donc nos camarades CGT de Tourcoing. Ils nous ont parlé un peu de la retraite à 64 ans, ce qu'on en pensait, tout ça. Donc on en a parlé. Après on a des collègues qui voulaient rentrer, donc ils sont rentrés et ils allaient bloquer 2-3 heures. Et nous du coup on a profité de ce blocage. On a dit ça serait peut-être le moment de se rebeller au niveau de notre augmentation de salaire, étant donné qu'aux dernières NAO on a eu 0% d'augmentation de salaire. Et suivant en plus l'inflation qu'on subit tous actuellement, c'est pas possible. Du coup, voilà pourquoi on a décidé de faire grève depuis là, le 20 mars.
On est là, même si Verbaudet veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un salaire meilleur, même si Verbaudet veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Verbaudet veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un salaire meilleur, même si Verbaudet veut pas, nous on est là.
Nous on attend une augmentation de salaire. Ça c'est voilà, c'est la base. On a demandé 20% d'augmentation de salaire, en sachant bien que les 20%, ça m'étonnerait qu'on les ait, mais le minimum du minimum, c'est 150 euros net. En fait, notre DRH nous a proposé plusieurs fois de travailler plus, c'est-à-dire travailler une heure en plus par jour pour atteindre 220 euros, je pense, par mois. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment sur notre salaire brut. Au moins, il y a des cotisations sociales et ça fonctionne aussi pour la retraite, en fait. Donc, c'est pour les deux combats.
Alors, je suis Alison Glorieux, je suis préleveuse à l'intérieur, donc manutentionnaire. Ça fait 23 ans que je travaille chez Verbaudet, je suis représentante syndicale de la CGT depuis le mois de décembre. Alors une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de femmes qui travaillent chez Verbaudet et c'est des horaires d'équipe. Donc les femmes, plus la vie de famille, les horaires d'équipe, c'est pas facile. Donc on a beaucoup de femmes à faire du temps partiel, donc, dont moi je suis en temps partiel, je fais un 25 heures semaine. Automatiquement ça a l'air beaucoup moins important que quelqu'un qui fait 35 heures et déjà ça on le ressent aussi par rapport à nos collègues qui font un temps plein, mais ça malheureusement on n'a pas le choix, c'est la vie de famille qui prime avant le travail. Et avec l'inflation on a de plus en plus de mal à finir les fins de mois. On a des collègues qui habitent très très loin et qui mettent beaucoup d'argent dans le gasoil. Et tout ça fait que la fin du mois c'est compliqué. Il y a des gens de Verbaudet que le 15 du mois ils ont plus d'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et ça devient vraiment de plus en plus compliqué en fait de pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants.
Et puis même, on est depuis qu'on soit là depuis qu'on vient de se faire embaucher récemment, ou qu'on soit là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même, on est au SMIC. On est tous payés pareil, au SMIC. Non, c'est pas normal non plus. Puis c'est par à l'heure d'aujourd'hui, le SMIC, c'est pas assez pour vivre, décemment. Moi, j'ai une collègue, elle me dit, vers le 20 du mois, elle doit aller à la soupe populaire pour pouvoir faire un plein de courses à la soupe populaire. Bah, moi, en tant que déléguée, ça m'empêche un peu de dormir quand même, parce que j'y pense et je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'au bout de 20 ans, elle doit avoir des aides pour elle manger. Alors qu'elle travaille à 35 heures, elle travaille à temps plein. On fait des kilomètres pour venir travailler et on mérite un meilleur salaire, même pour ne serait-ce que la reconnaissance. Donc non, pour l'instant, nous, on est toujours motivés à rester sous le piquet de grève tant qu'on n'a pas notre augmentation de salaire.
Et plus sur le déroulement de la grève, parce que mon collègue m'avait dit que le nombre de syndicats avait beaucoup augmenté et tout, plus au niveau de la manière de penser de tes collègues, et tout, est-ce que la grève, ça a changé un peu?
Mes collègues ont vu déjà la solidarité de la CGT, hein, on est beaucoup soutenus par la CGT. Il y a toujours des gens de la CGT qui sont là pour nous soutenir. On n'est jamais tout seul en fait. On voit aussi, ils ramènent à manger. Enfin voilà, on est vraiment. Puis la CGT de partout, hein. Les postiers, Benedicta. Enfin c'est vraiment tous les CGT de n'importe quel travail quoi. Et donc ils se sont rendus compte que c'était une famille la CGT et se sont dit pourquoi pas adhérer et en même temps se protéger parce que ils savent que le syndicat derrière est aussi là pour protéger les salariés. Donc on a eu pas mal d'adhésion suite au mouvement de grève.
Et en plus, c'était ce que tu disais un peu, mais il y a un peu une solidarité qui s'est organisée, les caisses de grève. Et
Oui, heureusement, oui. Pour ça, on est soutenu par, il y a une solidarité énorme. Je suis même étonnée, parce que ça va faire le premier mois de grève. Bon, on n'a rien perdu notre salaire. C'est quand même une somme... énorme quoi. Et il y a des gens qui s'arrêtent là et qui nous donnent un billet, une pièce. On a des élus qui viennent aussi. Après toute la CGT aussi qui passe et qui font aussi des caisses de grève pour nous. Donc c'est vrai qu'on a une solidarité, mais énorme. J'ai jamais vu ça. Jamais. En fait, on a été remplacés par des intérimaires au début. Ouais. Donc là, l'inspecteur du travail fait son travail. Donc il a bien remarqué que oui, effectivement, nous avons été remplacés par des intérimaires, chose qui est illégale. Et nous, on se bat aussi pour ces intérimaires parce qu'on demande à ce qu'ils soient embauchés. Parce qu'à longueur d'année, il y a toujours des intérimaires. Donc à un moment donné, c'est bien de les embaucher aussi, ne serait-ce que pour eux, qu'ils voient aussi pour avoir une meilleure vie. Pour avoir au moins un salaire tout le temps, au niveau du travail, quoi, qu'ils savent dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ils seront toujours là avec un CDI qui, en tant qu'intérimaire, on peut pas savoir.
Donc là, les intérêts, faut pas se leurrer, c'est des pions. On les appelle lundi, mardi, mercredi, il n'y a plus de boulot, on les sort. On les rappelle vendredi parce qu'il y a du boulot, c'est des pions. Et il y a tout le temps des intérêts. En sachant qu'au prélèvement, il y a presque plus d'embauchés qui prélèvent, donc on a besoin des intérêts pour pouvoir prélever la marchandise. Et nous, on a réussi, grâce à notre grève, à ce qu'ils embauchent 30 personnes. Donc là, il y a déjà une cellule, un recrutement qui est en train de se faire. Là, déjà, il y aura 10 embauches ici au mois de mai. Après, je pense en juin et après en octobre, si je me trompe pas. Mais il y a déjà 30 embauches cette année de prévu. Donc grâce au mouvement de grève. Parce que c'était pas prévu du tout. Et c'est parce que nous, on a appuyé sur ça, qu'ils prenaient des intérims en abondance. Ils prenaient des intérims en abondance, donc ils se sont sentis un peu obligés. Et puis l'inspecteur du travail, quand on a eu notre rendez-vous à Lille, ils ont dit non mais là faut exagérer, faut embaucher. Donc là ils se sont sentis obligés d'embaucher au moins 30 personnes.
À l'intérieur, on se faisait maltraiter puisque la direction nous infantilise depuis au moins bientôt 2 ans. Et que, en fait, avant, on avait le droit de manger un bonbon, on avait le droit de boire de l'eau, de la grenadine, un coca. Là, maintenant, on n'a plus le droit du tout. Dès qu'on faisait un pas de travers, on se faisait rappeler à l'ordre. Mais du coup, on restait chacun dans son coin. Ouais. Que là, maintenant qu'on est mobilisé, on parle entre nous et avec des membres de la CGT aussi qui nous disent « Mais non, ça, ils n'ont pas le droit, c'est interdit ». Donc ça nous a aussi motivés à se dire c'est vrai qu'on se fait maltraiter et c'est vrai que c'est pas normal. Donc là, nous, on est décidé à aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour cette augmentation de salaire, parce que beaucoup sont des femmes seules ou avec des enfants. Déjà, la direction, au départ, donc déjà même avant la grève, hein, ça, c'est deux délégués qui nous l'ont dit, le directeur, pour lui, nous a comparé à de la sodomie. C'est-à-dire, les ouvriers, c'est comme la sodomie, si tu mets pas de vaseline, ça coince. Bon, bah là, à mon avis, on n'a pas mis assez hein, de vaseline, parce que ça coince vraiment, pour le coup. Ensuite, quand on était au troisième jour de grève, il est passé devant nous. Il a attendu d'être au moins à 150 mètres de nous, parce que je pense qu'on doit faire peur. Hein. Il s'est retourné, il nous a dit, de toute façon, vous n'aurez rien et vous pouvez crever. Ben non. En fait, tous ces moments-là, ça nous motive encore plus, en fait. On est tellement dégoûtés que, enfin, leurs propos, c'est pas normaux. Surtout qu'on a une collègue, ils n'ont pas eu de remords à la licencier quand elle a dit à un collègue, allez, on revient boire un café, espèce de grand con. Elle a été licenciée sur le champ parce qu'elle a juste dit grand con.
Dès le départ, la CGT nous a expliqué qu'il existait une caisse de grève. Donc nous, on l'appelle caisse de solidarité, en fait, parce que c'est pas vraiment une caisse de grève. Donc tout le monde est amené, à les gens qui passent de sous-piquer ramènent un billet, une pièce. Après, on fait des choses aussi. Il y a eu plusieurs festivals qui se sont passés sur le piquet, donc ça a ramené de l'argent. Le 1er mai, on s'est coupé en plusieurs pour aller manifester. Et pareil avec des caisses de grève, enfin caisses de solidarité, on a récolté de l'argent. Donc après on essaye de faire des petites choses de solidarité pour pouvoir ramener de l'argent, pour pouvoir pas perdre trop d'argent. Et on a aussi la cagnotte Litchi. Et celle-là, elle est accessible via notre Facebook CGT Verbaudet. Il y a un lien et les gens inconnus, des gens connus mettent de l'argent dessus et voilà, la cagnotte grimpe bien.
Ouais, du coup ça crée une solidarité entre
mais nous, c'est un truc de fou, on a une solidarité mais enfin depuis le 20 mars hein, depuis le début on a des gens qu'on connaît pas qui passent, qui nous ramènent à manger, qui nous ramènent à boire. C'est vraiment on dit que les Français sont individualistes, ben non, on a la preuve là sur notre piquet que non, on a encore du soutien, on a encore de la solidarité entre nous. C'est un truc de fou.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à des salariés qui sont un peu comme vous au SMIC, très précaires et qui n'ont pas forcément l'habitude de faire grève ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur votre expérience, sur le fait que peut-être c'est possible ?
Nous déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on était dans un engrenage. Voilà, on était dans notre travail, on ne voyait pas trop ce qui se passait dans notre entreprise. Et ça nous a permis de voir justement, en sortant de notre entreprise, voir ce qui se passait, qu'on était maltraités par notre direction. Et voilà, faut plus que les salariés se laissent malmener, maltraités par leur direction. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille au bout des choses et il faut pas lâcher. Regardez-nous, ça fait 8 semaines qu'on est dehors, on lâche pas. On veut une augmentation de salaire et on aura notre augmentation de salaire. On rentrera pas tant qu'on n'aura pas gagné notre augmentation de salaire. Voilà, il faut aller au bout des choses. Il faut se battre pour ses idées, ses envies.
Depuis le 19 janvier, la première journée de manifestation contre la réforme des retraites, Révolution Permanente couvre quotidiennement tout le mouvement partout en France.
Mais on est toujours là, du matin au soir.
Donc là, je vois notre augmentation de salaire et là, 150 euros le bloc. Alors j'imagine que c'est un symbole ou c'est vraiment le prix du truc ?
Par connaissance de certaines personnes, apparemment, c'est ce qui coûte à le bloc de béton, 150 euros.
Et pourquoi il y a des blocs de béton ?
Pour délimiter la zone privée et la zone publique. Ça a été installé par le maire de Marquette-les-Lilles, Monsieur Legrand. C'est suite au délogement de notre piquet qui était vraiment présent mardi dernier, donc il y a une semaine de ça. On a été délogé avec les forces de l'ordre en utilisant la force contre nous et contre des collègues, qui a frappé beaucoup les esprits. Et là, du coup, on ne nous laisse plus le droit à l'accès, à reposer quelques tonnelles, histoire de bien s'installer, de nous faire montrer. On nous a dit oui, on peut rester là, mais il faut rester silencieux, de ne pas se faire remarquer.
Toutes les trois, vous êtes en grève depuis 2 mois et quelques ?
Depuis le 22 mars. C'est ça, au 20 mars, pardon, excusez-moi.
20 mars.
Ouais.
On compte presque plus les jours.
Bah, tous les jours, ça se ressemble, donc c'est vrai que, voilà quoi. Et bon, ça fait 2 mois et demi passé.
Est-ce que c'est votre première grève à vous aujourd'hui ici ?
Moi aujourd'hui, ouais, c'est ma première grève.
Et alors ?
Mais alors, pourquoi? Bah, pour une augmentation de salaire, tout simplement, chose qu'on mérite tous à l'heure actuelle avec le prix de la vie. L'élément déclencheur, c'est suite aux négociations annuelles, le 0%. Alors que l'entreprise se porte très bien, le chiffre d'affaires, il est présent, ils ont des bénéfices. Donc c'est inacceptable d'avoir 0% en augmentation de salaire, sachant que Verbaudet, auparavant, avant le Covid, se portait pas très bien. On avait toujours un minimum entre 0,4 et 0,7 d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, l'entreprise se porte très bien et on a 0% d'augmentation de salaire. C'est inacceptable.
On lâchera rien et j'estime qu'on le mérite, en fait. Moi, j'ai 33 ans de société. Et je suis payée au SMIC, comme j'ai un de mes collègues, il y a 44 ans de société, il est payé au SMIC. Avec l'inflation, tout ce qui augmente, bah, on s'en sort plus en fait.
Le DRH me disait tout à l'heure que vous étiez toutes au minimum payées 17% au-dessus du SMIC.
Non, enfin, je sais pas d'où il va chercher ses calculs. Lui, personnellement, moi, ce que je vois pas, c'est les 17%, comme vous dites, sur ma fiche de paye. Je suis payée à 1300 et des brouettes sur ma fiche de paye.
Et vous êtes en temps plein?
Tout à fait.
Je suis maman célibataire d'un petit garçon de 5 ans. J'ai un contrat à temps partiel, j'ai un CVS, c'est un contrat à vacances scolaires. Donc c'est-à-dire qu'à chaque vacances scolaires, je ne travaille pas. Je suis disponible pour pouvoir m'occuper de mon fils, mais c'est un choix aussi financier. Je gagne moins, mais au moins je fais des économies sur les garderies, nounous, centres aérés, qui coûtent très cher de nos jours. Donc c'est vraiment un choix financier de faire ce genre de contrat. Là, aujourd'hui, on nous l'a supprimé. Donc, on revient tous à temps complet à partir du mois prochain, du mois de juin.
Ah, cet avantage n'existe plus ?
Cet avantage n'existe plus, non.
Pour personne ?
Pour plus personne, non. Ou il faut avoir certaines conditions. Il faut prouver qu'on est un enfant à charge handicapé. Ou il faut avoir 4 enfants à charge, dont 2 en dessous de 13 ans.
Ah, ça, par contre, parce qu'on nous avait avancé tout à l'heure comme un avantage social de l'entreprise sans
c'était,
nous.
C'était un très bel avantage, mais aujourd'hui, il n'existe plus. Donc, en gros, là, je vais revenir à temps plein. Je vais gagner 1300 comme mes autres collègues, qui étaient déjà à temps plein. Mais ce que je vais gagner en plus, ben c'est ce que je vais donner à la nounou, à l'école et au centre aéré.
Il y a beaucoup de choses qui est fait chez Verbaudet. Donc, est-ce que vous lui accordez quand même 2-3 petits points, ou alors vous dites non, c'est vraiment pas une entreprise qui fait des efforts pour nous? Enfin, comment vous voyez, comment est le lien entre vous?
Personnellement, des efforts pour quoi, pour qui, pour honnêtement non. Depuis qu'ils sont à la direction, voilà, déjà pas d'écoute. Ils connaissent peut-être encore avec maintenant aujourd'hui ce qui se passe, nos prénoms. On n'est que des matricules et encore notre ancien, on va dire, dirigeant connaissait notre prénom et nos matricules. Au bout d'un an, depuis un an et demi, ils ne nous connaissent même pas.
Le DRH qu'on a rencontré tout à l'heure nous disait, bon ben, il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a augmentation obligatoire tous les ans, selon l'inflation, et que là, leur plan était de vous donner du pouvoir d'achat, en fait, avec 650 euros, dont 300 seront garantis à vie chaque année au mois de janvier.
Ce qu'il oublie de préciser, c'est que c'est au prorata du temps de travail. Ici, à Verbaudet, on est tous des mamans de famille, on a tous des contrats à temps partiel, donc cette prime est versée au prorata du temps de travail. Donc personne n'a touché les 650 euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, vu les conséquences du prix du coût de la vie, moi personnellement, j'ai touché 450 euros par rapport à mon contrat de travail. Cette somme-là m'a permis de pouvoir payer les grosses factures que j'ai reçues au même moment et de renflouer mon compte en banque qui était un peu dans le rouge en fait. En aucun cas, ça m'a permis de pouvoir diviser sur les 12 mois de l'année.
Parce que c'est une somme annuelle.
C'est une somme annuelle, ouais. Il nous l'a versée là, début janvier, pour qu'on gère avec ça sur les 12 mois. Voilà comment il nous le fait comprendre. Donc j'ai eu 450 euros, je dois les diviser sur les 12 mois et je dois me débrouiller avec ça. Ça ne me fait même pas les 150 euros d'augmentation de salaire que je demande à mon patron.
Moi, j'emballe. En fait, c'est d'abord le boulot de Émilie. Elle nous apporte les articles et nous, on les dispatche on les ventile en fait dans des cases. Donc après, on prend les articles, on les bip avec des scanners et donc du coup, à l'écran, on voit si c'est rempli, enfin si le colis est complet. Et après, on les compte, on les met dans des sachets ou soit carton et on les envoie sur le tapis.
Et donc vous intervenez avant.
Oui, c'est
ça. Nous, en fait, on a un chariot de trois verticales avec un listing d'étiquettes. Donc après, on suit les étiquettes et on fait tout le tour du picking, prélèvement. On prélève tout le train, comme on appelle prélever un train chez nous. Et après, nous, on le donne aux emballeuses pour que les emballeuses, elles emballent les articles qu'il y a dedans.
Et j'imagine, puisque j'ai visité un petit peu votre usine juste avant, justement, votre entrepôt, des kilomètres.
Ouais, on est sur un bon minimum 20 km par jour si on prélève pendant 7 heures.
Des points à améliorer dans votre travail aujourd'hui ?
La chose à améliorer pour nous au prélèvement, c'est de réduire le nombre d'allées. On est à 174 allées, donc ce serait bien de les réduire.
Ben, la cadence.
La cadence est rapide ?
Quand même, il faut être rapide. Après, c'est faisable, mais nous, on a l'habitude. Mais pour des nouvelles, par exemple, elles mettent 3-4 semaines à faire leur productivité. Il y a certaines cadences. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront jamais. Parce qu'après, on est une population vieillissante, donc c'est pas évident pour tout le monde.
Hein. Votre travail, c'est pour vous depuis combien de temps ?
28 ans.
21 ans.
Ben, c'est que, en fait, on a déjà une bonne ambiance entre nous. Heureusement qu'on a les collègues de travail qui sont là pour nous. Parce que on a une bonne ambiance et avant la nouvelle direction, ça se passait bien.
Ah non, moi je reste parce que c'est l'ambiance, comme Peggy, on a une superbe ambiance entre collègues, c'est ce qui fait qu'on tient, je pense aussi. Parce qu'avec un boulot qui est difficile, une direction qui est difficile, heureusement que nous, entre collègues, on s'entend assez bien pour que les journées elles soient plus faciles.
On suit hein, depuis deux mois, ça dure. On a tendance à penser que ça s'enlise aussi, que le dialogue social est difficile avec l'entreprise. Comment vous, du côté de l'entreprise, vous pouvez nous dire comment ça se passe ?
Alors, il y a l'aspect de la violence. L'aspect de la violence, ça, c'est rude. On a vraiment nos équipes qui viennent la boule au ventre. Là, ça s'est détendu, mais jusqu'à présent, qui venaient avec la boule au ventre. Vous avez vu les mesures de sécurité. Elles sont
la
pas
police présente.
La police présente partiellement. Les mesures de sécurité qu'on a dû renforcer pour éviter. Ça fait deux fois qu'il y a des intrusions sur le site de personnes avec des chasubles de la CGT qui sont venues, qui ont ramassé des barres de fer, ont cassé les vitres, ont lancé des fumigènes, ont menacé, violenté nos salariés. J'ai pris des coups sur le visage, sur le torse. On était là dans le couloir, ils avançaient, ils étaient plus de 150. On essayait de contenir ces gens pour que nos salariés se mettent en sécurité et ça frappait là dans le couloir. C'est notre réalité, c'est ce qu'on a vécu ici sur les deux mois.
Vous m'apprenez quelque chose parce qu'il ne s'est pas du tout fait frapper, personne ne s'est fait frapper par qui que ce soit. Ça a été vraiment du montage total. Nous, on a les vidéos de, oui, quand la CGT s'est introduite dans l'entreprise, mais ça a été bon enfant en fait, ça a été vraiment passif. Après, je comprends que quelques collègues ont eu peur de voir ce mouvement de foule, mais en aucun cas, il y a eu de la violence. Tout y a été vraiment très transformé. D'ailleurs, il y a même France 3 qui avait publié une vidéo quand ils étaient à l'intérieur. On entend bien que c'est la direction qui dit « on va aller chercher une barre de fer ». En aucun cas, c'était les CGTistes qui avaient quelque chose pour violenter quelqu'un, qui nous interdisent totalement d'accéder à l'entrepôt, alors que même en tant que gréviste, on a le droit d'accéder ne serait-ce aux toilettes ou à la cafétéria pour se servir d'un café.
Et là, vous avez le droit ?
On n'a pas le droit. On a déjà fait une tentative pour rentrer à l'intérieur avec un huissier qui était là pour constater qu'ils nous ont refusé l'entrée chez Verbaudet.
Ça fait quand même maintenant 10 jours que ces blocs sont là, que l'ambiance elle est quand même tendue, même si votre DRH me disait que ça s'est un peu calmé, les choses vont un peu mieux. Comment l'état d'esprit des troupes ici ?
Ben, l'état d'esprit des troupes, elles sont fatiguées moralement, je pense, de voir que ça fait 2 mois qu'elles sont dehors et qu'elles n'ont toujours pas obtenu le pourquoi de la grève, hein, l'augmentation de salaire, parce qu'on nous a tout proposé, hein, on en a eu des réunions sauf une augmentation.
Ben, y a eu 2 gardes à vue lundi dernier, deux personnes extérieures de la CGT, dont une très violente sur un de nos collègues qui a eu pas mal de jours d'ITT avec une luxation d'épaule et des côtes cassées. Et le visage tout est raflé, parce qu'ils étaient quand même 6 policiers contre lui pour l'allonger par terre, quoi. Et le lendemain, c'est ma collègue Claudia, gréviste, qui s'est fait prendre. Bah, elle est de la même proportion de taille que moi, 1m50, elle fait 48 kilos. Elle sort tout juste d'un cancer, donc très fragile. Et un policier qui est arrivé par derrière, qui l'a attrapé par le cou. et qu'il l'a étranglée en la soulevant, quoi. Limite, elle savait même plus parler parce qu'elle avait le souffle coupé.
Est-ce qu'à ce moment-là, elle n'écoutait pas les ordres donnés par la police? Enfin, qu'est-ce qui justifiait cette violence?
Ben, pas du tout, c'est juste qu'elle était là, ben, sur l'emplacement ou le piquet pour récupérer quelques effets personnels. Et d'après la police, ça n'allait pas assez vite à leur goût. Donc ils ont commencé à dégager toutes les personnes qui étaient sur le piquet pour les remettre nous là-bas, avec nous là-bas, quand on était bloqués derrière le barrage CRS. Et là, tout d'un coup, il s'est amené à la prendre par le cou et l'étrangler en la traînant sur plusieurs mètres, quoi.
Je vous dis, vous avez eu peur, vous avez eu...
Tout à fait.
C'est la première. Est-ce que c'est votre première expérience de grève ou de violence policière?
C'est la première. C'est la première grève. On n'a jamais
eu à faire la police. Donc forcément, oui, ça fait un peu bizarre. Hein.
La seule réponse qu'on a, c'est une soixantaine de CRS sur le piquet de grève. Enfin, c'est invraisemblable de voir ça.
Vous aviez vécu ça avant?
Mais jamais. Et jamais on penserait qu'on aurait vécu ça. Jamais. Je veux dire, la grève, c'est un droit. Ce qu'ils veulent faire, c'est intimider les gens pour qu'ils rentrent d'eux-mêmes. Mais ils font juste énerver encore plus toutes les salariés qui sont dehors depuis le 20 mars.
Vos collègues qui sont à l'intérieur, est-ce qu'elles comprennent, ils comprennent votre combat ou il y a des tensions?
On peut comprendre qu'il y en a qui ont eu peur de faire grève, qu'elles ont peur de ne pas avoir leur salaire à la fin du mois et qu'elles restent dans les locaux. On peut comprendre. Mais de là, nous insulter parce qu'on fait grève, nous mettre au placard parce qu'on fait grève et qu'on ne calcule plus, moi, je trouve ça pas normal.
Il y a certaines collègues qui comprennent le combat. Il y a d'autres collègues où ils sont vraiment contre nous, où limite, c'est un peu une guéguerre. Ils ont été même jusqu'à créer des pages Facebook sur nous, en récupérant des images que la CGT peut publier sur leur page et en nous insultant ou en divulguant des choses sur nos vies privées.
Il y a vraiment deux clans? Ou alors il y a quand même des ponts?
Bah écoutez, voilà, ils font très très peur aux gens, qu'on est des méchantes, enfin que tout à notre rencontre en fait. Alors que ben on se bat contre la direction et on se bat aussi pour elles, pour avoir cette augmentation de salaire, parce qu'elles sont aussi dans notre situation. Il y en a beaucoup.
Il n'y a pas que ça, parce que vous me disiez la dernière fois qu'il y a aussi l'aspect, on l'entend ici, des aspects sexistes dans l'entreprise. Moi, j'ai pu rentrer tout à l'heure dans la boîte, j'ai vu une affiche disant lutter contre les violences conjugales, donc une affiche de prévention contre le sexisme. Et pourtant, il y a des problèmes de sexisme. Racontez-moi.
Mais oui. Avant la grève, on a notre directeur logistique qui a parlé avec des élus de la CGT et qui leur a dit clairement, mais les salariés, c'est comme la sodomie. Si tu mets pas de vaseline, ça coince. Ou pendant la grève, il n'y a jamais eu autant de préservatifs à terre qu'en ce moment. Enfin, ça veut dire quoi? Et nous, on doit accepter de travailler au SMIC, de se tuer la santé, parce que c'est le cas, c'est un travail physique. Les femmes, elles sont usées physiquement. On a un taux de maladie professionnelle qui est énorme, et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tout ça pour gagner le SMIC, ne même pas pouvoir vivre de son travail, et en plus subir des propos que personne au monde ne doit subir. Aucun patron n'a le droit d'avoir ce genre de propos pour aucun de ses salariés. Enfin, c'est invraisemblable de voir ça. Donc je défie ces gens de vivre pendant 6 mois, je ne vais même pas aller loin, même 3 mois s'ils veulent, avec 1300 euros. On ne fait rien avec 1300 euros. C'est-à-dire qu'on bosse toute l'année, on pose des vacances pour même pas en profiter, parce qu'un ne serait-ce que d'aller une journée dans un parc d'attractions, ça coûte un bras. Ça coûte un bras, donc c'est ouais, effectivement, on a des vacances, c'est clair qu'on se repasse, parce qu'on peut rien faire d'autre, finalement. Et c'est pas normal.
Non, on est tous déterminés à aller jusqu'au bout, parce que ce qu'on demande, c'est rien du tout. On demande pas 150 euros pour aller flamber dans les magasins ou autre. C'est juste pour vivre un minimum au mieux, en fait, pour éviter d'être moins dans le rouge à la fin du mois.
C'est pour vous dire à quel point les femmes, elles sont déterminées, et qu'on lâchera rien devant la direction. Ça c'est sûr.
Et devant les violences policières non plus?
Et encore moins devant les violences policières. Moi je le dis, je le redis, ils peuvent doubler leurs effectifs, tripler leurs effectifs. Ils viennent nous déloger, ils font juste nous déplacer de quelques mètres. Mais on restera là. Parce que c'est notre société, parce que c'est pour elle qu'on se bat, c'est pour nos droits à nous. Notre combat est légitime, on restera là jusqu'à temps qu'on gagne.
Vous aimez votre boîte?
Mais bien sûr. notre travail, on y tient. Et tout le monde sur le piquet vous le dira de la même façon que moi. C'est notre travail. Nous, on peut le dire, c'est notre travail parce que nous, on a des gens, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là. Donc si elles tiennent pas leur travail, enfin non. On tient à notre travail, c'est juste qu'on veut changer la façon de le faire. On vit une très belle expérience, donc on est soudés et puis plus rien ne... On ne laissera plus rien passer.
Alors voilà où on en est aujourd'hui. Hein, les coûts rencontrés par cette grève va permettre d'attirer l'attention, évidemment de protéger et de renforcer la solidarité qui est déjà énorme, hein, comme elle a été largement décrite par les grévistes. Peut-être également de protéger les grévistes de la répression. Mais il va falloir faire attention parce que on est en train d'avoir une espèce de nationalisation du conflit avec des enjeux qui sont en train de dépasser les grévistes, puisque le calendrier il est quand même intéressant hein, de voir. Hein. Donc le 11 mai, c'était la première opération policière. Pour dégager le piquet de grève qui s'est réinstallé dans la journée, le dimanche 14 mai, il y a eu la visite de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, apporter son soutien et venir préparer en quelque sorte la rencontre avec la première ministre et Emmanuel Borne le 18 mai. Et le lundi 15 et le mardi 16, hein, il y a eu des nouvelles interventions policières contre le piquet, avec donc ce qui avait été évoqué, donc la blessure de Claudia suite à son interpellation, qui est à pour le moment 25 jours d'ITT total et qui a un déplacement des cervicales. Donc il y a aussi de la part, alors on est à Marquette-l'Île, donc il y a Tourcoing qui est vraiment pas loin, hein, c'est la mairie de Darmanin, donc il y a aussi des enjeux qui doivent se faire par rapport à toutes ces petites tractations et par rapport au niveau national aux échanges entre le gouvernement et les syndicats, en particulier la CGT. Alors évidemment, il y a aussi une interrogation de la part de la stratégie de la CGT, puisque dans ce genre de cas, on a un patronat de combat en face.
Ouais, complètement.
Des gens qui
n'hésitent pas.
Ne lâchent rien. Hein, et puis étant donné, on va dire, la population locale, ils savent qu'ils retrouveront toujours... de la chair à patron dans les parages, hein, c'est-à-dire que les 80 là, elles sont en CDI, mais pourraient très bien se faire virer ou lâcher ou démissionner, il y aurait beaucoup de monde derrière, hein, un gros turnover. Il faut essayer de trouver d'autres moyens de pression que le simple rapport de force, on va dire direct, même si celui-ci est primordial et important. Ce qui est évident, c'est que le patronat de Vert-Baudet ne sera, on va dire, rappelé à l'ordre, soit par son instance dirigeante, à savoir le gouvernement, soit par ses petits collègues de la confection et de la VPC dans le Nord. Donc là, il faut parler de généralisation de la grève, ne serait-ce que symboliquement ou pour quelques jours, plutôt que, on va dire, ce qui a été proposé pour le moment, à savoir un boycott, qui est une solution, on va dire, qui n'est pas inintéressante en soi, mais qui est
qui a toujours difficilement marché en France. Hein.
Ouais,
Tous les boycotts qui ont pu exister ont rarement marché, même au niveau de, à une période, au niveau de l'Afrique du Sud, par exemple. Je pense aussi maintenant, ça c'est encore par rapport à la Palestine, hein, les territoires occupés par Israël, ça a du mal à fonctionner vraiment, hein.
Voilà. Et puis on l'a dit, hein, et on le répète, pour la force des travailleurs, c'est la grève, hein. Et ce n'est que parce que elles ont tenu 8 semaines d'affilée, hein, ce qui est déjà énorme, qu'elles ont pu arriver à ce point d'affrontement. Donc la grève, c'est un moyen, et c'est un moyen qui doit se généraliser, bien sûr. Alors à suivre, évidemment, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rendre sur les différents sites de soutien, de solidarité, et poser ça en débat. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, 5-6 exactement. On voulait terminer cette émission en rendant...
Un hommage.
Un hommage, ouais.
Faut que j'aime pas trop ce terme, mais bon.
Non, pour avoir un souvenir, en tous les cas.
Souvenir,
enfin, ouais. Un sentiment de camaraderie. C'est incroyable, cette année, on a fait beaucoup d'hommages à des gens qui disparaissent, mais ça fait partie de la vie, quoi. C'est toujours difficile pour des matérialistes de penser que les gens qui disparaissent ne reviennent pas. On sait très bien que ça, mais ça nous permet de nous rappeler, en tous les cas, des combats,
des luttes, ouais.
Des luttes, et de voir que finalement, de ces exemples-là, on ne peut que se donner de la force, quoi. Donc, c'est une personne qui est décédée le 15 mai dans une relative indifférence, je trouve, puisqu'il aura fallu déjà quelques jours avant d'apprendre la nouvelle. Et puis ensuite, par rapport à l'impact qu'elle a eu dans le mouvement social en général et dans le mouvement des sans-papiers en particulier, je trouve qu'il y a eu assez peu de choses, même si évidemment les mouvements ne sont pas réductibles à des personnes, mais en tous les cas, Madjigan Cissé, qui est la personne dont on parle, aura été quand même un symbole extrêmement important.
Un symbole, oui. Alors, faudrait revenir quand même un petit peu sur ce qu'est cette période. Madame Cissé est arrivée en France non pas pour travailler, contrairement à d'autres, la plupart des autres immigrés qui étaient dans cette lutte. Elle était là pour simplement accompagner sa fille qui passait son bac en France. Elle venait du Sénégal et elle avait 45 ans et elle s'est complètement investie quand elle a vu effectivement des tas de collègues à elle, des tas de copains et copines du Sénégal et du Mali qui faisait grève, qui qui essayait d'être visible, parce que le problème à cette époque-là, au niveau des sans-papiers, c'est d'être visible. Ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Et finalement, elle est venue les aider dans la lutte et elle est restée 4 ans.
Elle est devenue sans-papiers pour le coup, puisque
elle est revenue sans-papiers.
Elle était venue en 93, comme tu dis, avec un visa de tourisme. Ouais.
Oui, elle était venue avec un visa de touriste en
93. Elle fait son premier séjour à Paris pour, comme tu dis, assister ses filles dans ses études. Elle a un visa de tourisme, mais elle va devenir chef d'une équipe de télémarketing de centre d'appel en allemand, puisqu'elle était, elle avait fait des études en Allemagne à Sarrebruck, et puis elle va s'engager à fond dans le mouvement des sans-papiers, qui est dans un premier temps plus de 300 familles qui vont occuper l'église de Saint-Ambroise.
Oui.
Avec là un autre personnage qui s'appelle Romain Binazon, qui lui aussi est décédé dans un accident de voiture au Bénin. Hein, Romain était béninois. Et Romain, c'est lui qui va participer à la fondation et à la création avec Madjigan de ce qu'on va appeler la coordination nationale des sans-papiers, c'est-à-dire dépasser toutes les associations on va dire communautaire à l'époque ou culturel pour créer un véritable mouvement de politique de sans-papiers. Et la force des personnes qui vont animer ce mouvement, avec évidemment leur soutien, mais que c'est d'abord un mouvement de sans-papiers qui passe par des occupations et qui revendique le fait d'être sans-papiers. Et c'est là qu'on va utiliser d'ailleurs ce terme de sans-papiers, puisqu'à l'époque on appelait ça des clandestins, hein, c'était des gens qui étaient cachés, et on sort de l'ombre, on pose le mouvement comme un mouvement politique. Alors évidemment, ce mouvement
On se sort surtout du soutien des cathos, des protestants, etc., pour faire de poser le problème au niveau politique des rapports entre la France et ces pays-là, de poser des problèmes du travail. Tout ça, ça a été posé par ces hommes et ces femmes. Alors, Cissé, elle, était vraiment aux avant-postes, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait une particularité, c'est qu'elle était extrêmement déterminée et elle avait aussi le bagage lui permettant de bien parler, déjà. Donc, c'était important, puisqu'il y en a beaucoup de ces gens, de sans-papiers, qui avaient du mal à s'exprimer. Là, ils avaient vraiment leur porte-parole. Il n'y a pas qu'elle hein, comme porte-parole. Mais ça a été 4 ans de lutte jusqu'en l'an 2000. Mmh. Elle n'a pas été régularisée, elle, ainsi que d'autres leaders de ce mouvement. Politiquement, à cette époque-là, c'est important. Hein. C'était Chirac qui était au pouvoir. Ouais. Et il y a eu Jospin qui a été élu en 98, je crois.
En 97.
97. Avec un certain achevènement.
C'est ça, hein, qui va régulariser la moitié. Écoute, ce que je te propose, c'est de l'écouter. Dans une intervention qu'elle faisait suite à ce mouvement, où elle résume et elle expose tout ce qu'on a essayé de dire, et elle le dit avec ses propres mots, et elle le dit vraiment très très bien. J'espère que ça va marcher, on va l'écouter, ça dure 2 minutes, mais je crois que ça résume parfaitement sa position et la capacité et la force qu'elle a eue, qu'ils avaient en politisant véritablement, en sortant de l'humanitaire et en politisant cette question, en le liant avec la question sociale. Allons-y.
Mais on est toujours là,
non, c'est pas
du
ça.
Matin au soir.
Donc là...
Nous, sans-papiers de France, nous déclarons. Nous vivons parmi vous, pour la plupart, depuis des années. Nous sommes en général entrés régulièrement sur le territoire français. Nous avons été arbitrairement rejetés dans l'illégalité par le durcissement de lois successives qui permettaient aux préfectures de ne plus renouveler nos titres de séjour et par des restrictions apportées au droit d'asile. Nous sommes parfois des célibataires qui permettons souvent à nos familles de survivre au pays, mais nous vivons fréquemment aussi avec nos conjoints et nos enfants nés en France ou venus tout petits. Nous avons en France nos familles, mais aussi nos amis. Nous payons nos impôts, nos loyers, nos charges et nos cotisations sociales lorsqu'on nous permet de travailler régulièrement. Quand nous ne connaissons pas le chômage et la précarité, nous travaillons durement dans la confection, la maroquinerie, le bâtiment, la restauration, le nettoyage et bien d'autres secteurs. Nous subissons les conditions de travail que nous imposent les entreprises et que vous pouvez refuser plus facilement que nous, car être sans papier fait de nous des sans-droits. Nous demandons des papiers pour ne plus être victimes de l'arbitraire des administrations, des employeurs, des propriétaires. Nous demandons des papiers pour ne plus être exposés à la délation et au chantage. Nous demandons des papiers pour ne plus subir l'humiliation des contrôles aux faciès, les mises en rétention, les reconduites à la frontière, l'éclatement de nos familles, la peur perpétuelle. Le Premier ministre de la France avait promis que les familles ne seraient pas séparées. Nous demandons que cette promesse soit enfin tenue. Nous demandons que les conventions européennes et internationales auxquelles a souscrit la République française soient respectées. La France doit rester la patrie des droits de l'homme. Nous comptons sur le soutien d'un grand nombre de Français dont les libertés pourraient se trouver menacées si nos droits continuaient d'être ignorés. Les exemples de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et à plusieurs reprises de la France même démontre qu'une régularisation globale est tout à fait possible. Nous demandons notre régularisation. Nous ne sommes pas des clandestins. Nous apparaissons au grand jour.
Voilà, je crois que... Alors, elle est repartie en l'an 2000 au Sénégal. Elle n'est pas revenue depuis. Il faut dire qu'elle s'est investie au Sénégal au niveau femmes. Elle a créé
un réseau des
femmes pour le développement durable en Afrique. Et elle a créé une cité des femmes à Dakar. Elle est surtout connue au Sénégal.
Et ouais, je crois que c'est bon, ça date de 1996, hein, là le petit enregistrement que je vous ai diffusé. Et je crois que ce qui était primordial, c'était que véritablement, c'était les acteurs de ce mouvement, les premiers concernés par ce mouvement, qui parlaient. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi grâce à ça, que s'ils n'ont pas gagné totalement, ils ont quand même réussi à remporter quelques victoires.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi, et enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais.